Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Bonjour, bonsoir. Vous écoutez J'irai cracher sur vos ondes, l'émission de Radio Syllabe qui s'intéresse aux faits et objets de littérature. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans le monde de la littérature ? C'est pas moi qui vais vous le dire, mais Agathe, qui nous a préparé une petite page d'actualité toute fraîche.
La fin de l'année est signe d'une grande ébullition dans le monde littéraire. Préparation de la rentrée littéraire de janvier, mais aussi annonce de prix. La semaine dernière, c'était le tour du célèbre prix Goncourt d'annoncer son gagnant, Hervé Le Tellier, pour son livre L'Anomalie, publié aux éditions Gallimard. Dans la foulée, c'est aussi Les Impatientes de Djali Amadou Amal qui se voit couronnée du prix Goncourt des lycéens. Et samedi, c'était à Albin Michel de révéler son vainqueur. Franck Bouys a remporté le prix Jean Giono 2020 pour son roman Buveur de vent. Un livre pas comme les autres, il est actuellement en top des ventes en Italie et pourtant il n'est composé que de pages blanches. Pourquoi Salvini mérite confiance, respect et admiration est le titre d'un livre sorti il y a un an et signé du pseudo d'Alex Green. Il aurait pourtant été écrit par l'ancien ministre italien Matteo Salvini lui-même. Dans la description, l'auteur s'amuse. Ce livre est rempli de pages blanches. En dépit d'années de recherche, nous n'avons rien trouvé à dire sur ce sujet. Aussi, nous vous prions de vous sentir libre d'utiliser ce livre pour prendre des notes. De quoi faire couler l'encre des journaux. Le message est passé plutôt inaperçu. Sur leur site internet, la famille de Roald Dahl a publié un court communiqué dans lequel ils s'excusent de l'antisémitisme de l'auteur. En effet, Roald Dahl avait tenu ce genre de propos lors d'une interview en 1983. Une image qui ne colle pas avec l'univers enfantin de l'auteur de Charlie et la chocolaterie, mais qui n'est pourtant pas nouvelle. Ces excuses discrètes visent à ne pas froisser les associations caritatives avec lesquelles la famille travaille. Elles n'entacheront donc pas l'héritage de l'auteur qui s'élève à 23 millions de livres.
Merci Agathe pour ce flash info spécial actualité littéraire. Je vous propose de quitter dès à présent l'actualité et de partir pour un voyage dans les contrées fabuleuses de la science-fiction. Fantastique, futuriste, dystopique. Que de surprises qui nous attendent au cours de cette petite randonnée dans le genre qui fait la part belle à l'imaginaire. Ce soir, on va aller sur des planètes inconnues, à la froideur hivernale et aux sociétés qui invitent à l'introspection. On va s'enfoncer dans le sol, profond, en des milieux souterrains. Et puis on ira par les collines, les vaux et les montagnes, et par-delà les confins du globe. Préparez-vous mes amis. Le périple ne fait que commencer. Et pour la première étape de ce voyage, c'est Marion qui prend la barre.
Bonsoir autrui. Alors désolée pour cette ambiance pseudo-lounge. J'enregistre avec le micro de mon ordinateur et c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas réitérer les couacs de ma chronique de la semaine dernière. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle La main gauche de la nuit, The Left Hand of Darkness en anglais. Autant le dire tout de suite, on est loin de la nouveauté, puisque c'est un livre qui date de 1969. C'est un des premiers romans d'Ursula Le Guin, une pointure parmi les écrivains de l'imaginaire, fantasy, fantastique, science-fiction, etc., dont j'avais eu l'occasion d'entendre le nom à de nombreuses reprises sans jamais avoir rien lu d'elle. Donc maintenant, c'est fait. Alors je me réveille un peu tard pour rejoindre son fan club, parce qu'Ursula, elle est morte en 2018, à 89 ans. Mais vraiment, je viens de finir La main gauche de la nuit et je crois que je la considère déjà comme une vieille pote. D'ailleurs, j'ai décidé de l'appeler Ursula. Mais avant de vous expliquer pourquoi j'aime bien Ursula, il faut quand même que je vous parle de ce roman que j'ai bingé en 3 jours. Donc un petit amuse-bouche pour vous décrire rapidement le sujet du livre. L'action de La main gauche de la nuit se situe sur une planète qui s'appelle Geten, où les 4 saisons se déclinent sur un mode unique, l'hiver. C'est un hiver plus ou moins vénère selon la période de l'année. La météo y est tellement hardcore que les êtres humains des autres planètes ont carrément surnommé la planète hiver, histoire que ce soit clair. On est donc dans le futur, et l'humanité, répartie sur une dizaine de planètes associées en fédération, a envoyé sur Geten un émissaire, afin de proposer à ses habitants de rejoindre la dite fédération. Cet émissaire, c'est Genli Ai, un des 2 narrateurs du roman, qui se retrouve à devoir naviguer dans le bordel politique de Geten, avec les meilleures intentions du monde, mais sans comprendre grand-chose. Pour Genli Ai, l'entrée dans ce monde si différent du nôtre est plein d'étrangetés. Depuis le climat ambiance air glaciaire mais sans ours polaire, jusqu'à l'ambiance Game of Thrones qui régit les manifestations du pouvoir politique, en passant par l'absence de sexuation des individus la majorité du temps. Ouais, l'absence de sexuation des individus la majorité du temps. En fait, sur Geten, il n'y a pas d'hommes ou de femmes, la population est complètement androgyne. En fait, il s'avère qu'ils sont asexués la majeure partie du temps, mais que selon un cycle qui est proche dans sa périodicité du cycle menstruel, ils entrent une fois par mois dans une phase particulière d'une dizaine de jours où leur système hormonal les sexualise en mâle ou en femelle, selon des facteurs environnementaux et sans possibilité de choix. Oui, c'est bizarre. Mais pour eux, c'est Genli Ai, l'émissaire, qui est bizarre. Pour eux, c'est un monstre, un pervers, un déviant sexuel qui est bloqué dans sa phase de sexuation, appelé Khemer. Et donc, loin d'être loufoque en fait, Ursula réussit ce tour de force, c'est de rendre crédible une société qui est aux antipodes de la nôtre, où la mère de plusieurs enfants peut aussi être le père de plusieurs autres, où tout le monde entre 17 et 35 ans peut être assujetti à l'enfantement, fardeau et privilège équitablement partagés. Tout le monde prend le même risque et a le même choix, si bien que personne n'est aussi libre que l'est ailleurs un homme. Il n'y a pas de sexe sans consentement, pas de viol, il n'y a pas de division au sein de l'humanité entre deux moitiés, l'une forte et l'autre faible, l'une protectrice et l'autre protégée, l'une dominante et l'autre dominée, l'une propriétaire et l'autre esclave, l'une active et l'autre passive. Alors j'entends déjà d'ici les relous du fond de la classe, donc je vous arrête tout de suite. La société qu'Ursula imagine n'est pas idéale, loin de là. Et l'androgynie de ses habitants n'a pas fait de Geten un paradis. S'il y a bien une chose que le roman ne fait pas, c'est de verser dans la simplification. Le monde de Geten est tout aussi imparfait que celui que nous connaissons, il est autant rempli d'injustices, de violences et de dégueulasseries en tout genre. Mais s'il est aussi nul que le nôtre, ce monde, pourquoi lire ce livre ? Alors déjà parce qu'il est facile à lire, c'est de la science-fiction qui prend soin de son lecteur, qui le prend par la main. La narration façon alien assumée par Genli Ai est un mécanisme, on va dire, facilitateur d'entrée dans la fiction, parce que pour le lecteur, voir à travers les yeux de quelqu'un pour qui ce monde est tout aussi étrange, permet d'atténuer la distance qui existe entre le monde de Geten et le nôtre. Ensuite, parce qu'en plus d'être facile à lire, il est bien ficelé, et qu'il m'a rappelé des univers à l'Androbinob à Damasio. Ouais, je lâche des noms comme ça, j'ai pas besoin d'expliquer. À la fois pour le déroulement de l'intrigue que pour la complexité et la profondeur qui s'en dégage. Et si ce monde imaginaire ne nous offre pas la vision d'un paradis idéal en regard du nôtre, les interrogations des habitants de Geten sur notre différenciation sexuée nous posent de vraies questions. Comme lorsque un des personnages, Estravan, je sais pas comment ça se prononce, demande à Genli Ai de parler des femmes, qui lui demande si elles sont différentes des hommes et en quoi. Si elles sont une espèce différente. Ce à quoi Genli répond que non, oui, enfin non, bien sûr que non, pas vraiment, mais que la différence est tout de même très importante, que le facteur le plus déterminant dans une vie est d'être né mâle ou femelle, que dans nos sociétés cela détermine nos attentes, nos activités, nos apparences, nos éthiques, nos habitudes, presque tout. Le vocabulaire, les usages sémantiques, les vêtements, mais qu'il est très difficile de séparer les différences innées des différences acquises. Et que, même si les femmes participent finalement à égalité avec les hommes dans la société, ce sont elles qui font les enfants et leur éducation. Estravan demande alors, mais l'égalité n'est donc pas la règle générale ? Sont-elles mentalement inférieures ? Ce à quoi Genli répond, un peu embarrassée, je ne sais pas. Elles ne finissent pas souvent mathématiciennes ou compositrices de musique ou inventrices ou penseuses abstraites. Mais ce n'est pas qu'elles soient stupides, mais... Enfin bref, vous l'aurez compris, le regard que l'on peut porter sur le monde de Geten est au moins aussi intéressant que celui que ce monde porte en retour sur le nôtre. Ou, comme le dit un monde où, comme le dit Genli, un homme veut que sa virilité soit respectée, une femme veut que sa féminité soit appréciée. Et ce chassé-croisé entre monde imaginaire et monde réel, c'est pour moi un des ressorts les plus efficaces du roman, et ça me permet de vous toucher 2-3 mots sur la supposée absence de réalisme qui caractériserait la littérature de l'imaginaire. Alors pour ma génération et celle d'avant, qui a été biberonnée à Harry Potter et au Seigneur des Anneaux, c'est plus vraiment un problème aujourd'hui, mais Ursula, elle sait tout le discrédit qui a pesé sur les œuvres de science-fiction et de fantastique pendant tout le début de sa carrière. Et quand elle reçoit un prix de plus en 2014, elle le dédie en partie à tous ses compagnons d'écriture de la fantasy, du fantastique, de la science-fiction, tous ces écrivains et écrivaines de l'imaginaire qui, pendant 50 ans, ont regardé les prix être décernés à de soi-disant écrivains plus réalistes qu'eux. Et cette disqualification automatique des œuvres de science-fiction sous prétexte de leur absence de réalisme, je l'ai souvent rencontrée. Coucou maman. Peut-être y a-t-il un lien avec ceux qui considèrent que tout film d'animation est à destination des enfants. Heureux coucou maman. Et pendant des années, ça m'a mis en colère, et à bien des égards, je le suis encore. Je m'en vais donc vous cracher mon venin dans les oreilles, histoire que l'émission porte bien son nom. Parce que oui, c'est con, c'est dommage, mais on peut pas vraiment classer les œuvres en deux catégories binaires. D'un côté les réalistes, de l'autre les non-réalistes. D'ailleurs, ça peut faire penser à une autre catégorie binaire dans laquelle on classe les gens. Et dans sa préface, Ursula, elle le dit bien. Toute fiction est une métaphore. Toute fiction est un « et si » qui nous ouvre les portes de la perception pour voir autrement le monde réel. Et pour ceux qui seraient toujours pas convaincus, je vous mets en lien un mémoire qui résume très bien la tension inhérente entre fiction et réalité, que la fiction soit science-fiction ou réaliste. Je vous jure, c'est intéressant, c'est clair, net et précis. Bon, pour ceux qui sont déjà convaincus que Palpatine est un Macron réaliste, ça pourra toujours vous donner des munitions pour appuyer votre point de vue. Et pour revenir à Ursula, la réalité qu'elle décrit à travers son roman est une réalité qui est beaucoup plus large, beaucoup plus complexe que celle du feuilleton télévisé le plus réaliste. Cette réalité, c'est que la vérité est une affaire d'imagination, et que le fait le plus solide peut échouer à convaincre ou emporter l'adhésion selon la manière dont il est raconté. Bonne soirée, bisous, bon appétit, cœur, love.
Merci Marion pour cette chronique qui introduit à merveille l'un des plus grands pouvoirs de la science-fiction. Aller chercher au plus loin de soi, au plus bizarre, au plus étrange, au plus étranger, pour mieux regarder où l'on s'y trouve. Nous quittons la douce ambiance lounge et on s'écoute un petit morceau de Blur. Bon, débrouillez-vous avec ça. On écoute en tout cas Girl and Boys.
Like that girls, like that boys. Oh, I should be some. Girls and Boys par Blur. Vous écoutez, j'irai cracher sur vos ondes.
Sous béton de Caroline George. Alors, cette semaine, puisque la thématique du mercredi soir est la science-fiction, l'anticipation, eh bien moi j'ai décidé de vous présenter une femme, une jeune autrice québécoise. Alors, Sous béton est d'abord paru aux éditions Alto en 2011 et a été enfin publié par Gallimard dans la collection Folio SF en 2018. Alors, Sous béton est d'abord ce premier livre édité en France. Et quand même, il faut savoir que cette femme a publié d'autres livres au Québec, trois autres romans. Alors, le premier est en 2001 chez Les Méacs. Et ils appartiennent effectivement tous au genre anticipation. Alors le premier s'appelle La Mue de l'Hermaphrodite, où là on plonge directement dans l'univers des psychotropes. Son deuxième roman, paru en 2004 et réédité chez Alto, s'intéresse, lui, à la quête de l'esthétique. Et enfin, deux synthèses, publiées avant Sous béton, publiées en 2017 chez Alto, et lui carrément, un récit qui nous parle de décomposition corporelle. Alors, le livre dont j'ai envie de vous parler ce soir, c'est avant tout parce qu'il s'agit d'une expérience. Une expérience dont on ne sort pas vraiment indemne. C'est plein d'angoisse, c'est éprouvant, et on s'enfonce au fur et à mesure dans un labyrinthe d'émotions extrêmes, entre peur, colère et inquiétude. Ouais, ça s'annonce un peu comme ça. On va à la fête foraine, et puis en fait, c'est la fête foraine, mais sans les barbes à papa, sans les manèges, sans les lumières. Alors que reste-t-il? Juste un univers dénué de joie, d'enthousiasme. Tout devient sombre. Et on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. Vous savez, un petit peu là, comme lorsqu'on va dans le train fantôme. Mais là, c'est pas de fantôme dont il s'agit. C'est pire. Je vous laisse imaginer.
J'étais enfermé au 804. Étage 5969. L'édifice comptait beaucoup d'autres étages, mais je ne savais pas combien. Le père ne précisait jamais. Dehors, au seuil de l'édifice, s'entassaient les expulsés. Un nombre incalculable. Plus loin, derrière le grouillement humain, l'horizon gris. Et plus loin encore ? Le père soupirait impatiemment chaque fois que je posais la question. Il affirmait ensuite : plus loin. Il n'y a plus rien.
Sous béton est une expérience, une aventure dont on sort pas entier. Plein d'angoisse, c'est plein de douleur, et au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture, toute une gamme d'émotions surviennent. La plus grande étant peut-être l'inquiétude et la peur. Alors évidemment, tout ça, c'est pas gratuit. C'est pas par masochisme que l'autrice nous écrit. En fait, elle veut nous interroger à chaque page, à chaque phrase. Ça nous prend comme une bouffée de stress. Et après, on se dit « Mais qu'est-ce que je lis là? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et puis ensuite, de manière plus profonde, c'est le contenu qui nous prend à la gorge, nous sonde, nous scrute. Car naturellement, l'auteur, encore une fois, ne fait pas ça sans raison. C'est pas juste un exercice de style. Elle veut signifier des questionnements, des réflexions. Pourquoi sommes-nous sur Terre? Et sommes-nous libres? Et si nous le sommes vraiment? Jusqu'où le sommes-nous? Quel est notre rôle? Pourquoi vivons-nous?
J'étais en règle. On me prêtait un numéro d'identification médicale qui validait mon existence chaque matin au réveil, tandis qu'une sonde, plantée dans mon nombril, prélevait un échantillon de mon être afin de vérifier, jour après jour, la qualité de mon état biologique. J'étais identifié par un matricule qui, chaque matin, confirmait ma liaison au savoir. Le pourcentage de l'apprentissage déjà prodigué déterminait les étapes subséquentes du programme de distribution d'éducation. J'étais donc dûment numéroté. Mais le père et la mère n'avaient pas jugé nécessaire de me fournir un nom. Si un jour l'enfant souhaite avoir un nom, il le choisira lui-même, avait suggéré la mère à ma naissance. Et le père avait déclaré froidement « Nous le tutoierons, voilà tout. »
Ce roman d'anticipation singulier, ce huis clos, dont le champ lexical repose sur celui de l'enfermement, nous donne un sentiment de claustrophobie extrême. Il est né, cet ouvrage, du constat et de la prise de conscience des difficultés auxquelles l'autrice est confrontée. Il s'agit du réchauffement climatique, le devenir de l'homme, ses évolutions, la disparition des espèces, les virus, les maladies, le concept de conscience de l'humanité. Elle se pose aussi la question de l'apocalypse. Elle s'interroge sur le devenir de l'être.
Dehors, il n'y a que poussière à manger, professait chaque matin le père. Dehors, les exclus se dévorent les uns les autres, ajoutait immédiatement la mère. Nous pourrirons ici, voilà toute notre histoire, complétais-je d'un ton approprié, immobilisé entre le père et la mère devant l'écran. Un écran petit, à peine un mètre carré, encadrant la griseur de l'horizon et du ciel, griseur avec quelques nuages parfois, plus pâles ou plus foncés. Or, je ne voyais plus ni nuages ni écran depuis longtemps. J'observais plutôt les murs autour de moi, sous la lueur blanche du luminaire. Des murs lisses, sans ouverture aucune. Du béton, enraciné profond dans la lithosphère, qui s'élevait jusqu'à la stratosphère.
C'est effectivement un roman très sombre, au sens propre et au sens figuré. On plonge tout de même dans la conscience d'un être humain dont les parents le maltraitent, qui vit dans une chambre bétonnée sans fenêtre. Il s'interroge sur l'issue possible et il est quand même confronté quotidiennement à l'oppression des relations. Alors on parle d'un édifice. Est-ce un personnage, un objet, un lieu, un comportement, une attitude, un mouvement? Mais en tout cas, il n'y a pas d'ouverture possible. On observe sa vie, on participe avec lui à la tragédie de sa vie. Tout ça nous angoisse, et nous-mêmes, comment pouvons-nous faire pour sortir de l'enfermement dans lequel nous sommes par cette lecture? Qu'est-ce qu'il y a à voir au-delà de tous ces mots à travers ce livre? De quel enfermement parle l'autrice? Et quel enfermement nous parle lorsque nous-mêmes nous ressentons des émotions? Et plus généralement, et peut-être plus intimement, quel enfermement vivons-nous, chacun, dans notre vie?
Un jour, pendant une séquence de coups de pied du père, malgré les avertissements et les conseils et les menaces, j'ai cherché à me libérer. Pour la première fois, je me suis précipité hors du logis, faufilé dans le corridor entre semblables père et mère. J'ai dépassé d'innombrables adresses similaires. J'ai tenté de me dissimuler entre les passants, frappé aux portes. Je ne savais pas exactement quoi faire, ni comment. Je n'avais pas préparé du tout cette subite hystérie, cet appel à l'aide sans formule, sans protocole. Je n'ai pas su contrôler les larmes, ni la sueur maculée sur le corps entier, ni les tremblements du système nerveux, ni l'essoufflement de la course folle des idées aussitôt balbutiées entre mes lèvres.
Alors ce roman d'anticipation permet d'aborder différents sujets. Je viens de les énoncer. Il y a aussi notamment la maltraitance sur les enfants et le contrôle total de l'information. Et en quoi l'idée de sortir de chez soi amène à l'être humain un changement physique. Alors ça m'a fait penser à la métamorphose de Kafka, je me souviens de mes cours lors de mes études de lettres et de ma professeure de français qui m'avait justement parlé de cela. Comment trouver une issue pour sortir d'une situation? Eh bien, puisque nous sommes dans un ouvrage qui nous plonge d'ailleurs dans une autre dimension, en quoi finalement la nouvelle de Kafka n'est pas à mettre en parallèle? On parle après tout même de décomposition. Alors, Sous béton est pour moi un roman d'anticipation à classer entre Kafka et Amélie Nothomb. Alors, il faut quand même savoir que cet ouvrage n'est pas pour être aimé ou pour être détesté. Hein. Il est là, à mon sens, pour soulever des questions. Et j'avoue que, après avoir fermé le livre, je suis restée vraiment pas mal de temps bouleversée. Hein. Et j'ai même été surprise à quel point mes pensées m'amenaient à replonger dans les limbes de Sous béton. Et je me suis dit, mais si après tout, ce livre n'était peut-être pas l'incarnation d'un monde qui pourrait advenir si nous n'y prêtons pas plus attention? Et si cet édifice dont on parle n'était pas tout simplement la métaphore d'un système incontrôlé et incontrôlable, une dictature qui pourrait surgir? Bon allez, là j'avoue, l'émission va se terminer, alors je vais prendre l'air, profiter des grands espaces, de la liberté et marcher jusqu'à plus soif. Et avec un peu de chance, je rencontrerai une pote ou deux. Alors à bientôt, je vous embrasse.
Vous avez pas lu Kafka? Oh là 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 là. Vous avez pas lu Kafka? Oh là 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 là. Vous avez pas lu Kafka? Oh là 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 là. Je me donne un mal de chien, mais je ne comprends pas tout. Je me donne un mal de chien, je n'en viens pas à bout. À cause des musiciens, yeah, yeah, qui jouent près de moi, je ne peux pas lire ici. Je ne le répéterai pas, je ne peux pas lire ici. C'est bête ça, je ne peux pas lire ici. Ça y est, et c'est reparti. Et dis donc Nino, tu peux pas jouer moins fort? Faut que je me cultive. Et dis donc Nino, Kafka, c'est pas Astérix? Moins fort Nino, j'ai les nerfs qui lâchent. Grâce à ces musiciens, j'entrevois tout à coup l'univers kafkaïen qui rend les hommes fous. L'univers kafkaïen, oh yeah, moi je l'ai chez moi, c'est bien le dernier mois que je passerai là.
Vous avez pas lu Kafka par Suzanne Gabriello.
Je ne resterai pas, car si je reste ici, oh, je le vois, car si je reste ici, je ne me cultiverai pas, je ne peux pas lire ici, car c'est très calé Kafka.
Vous avez fallu Lovecraft, pardon. Alors, c'était bien sous le béton ? Vous inquiétez pas, je vous sors de là, on va aller à la montagne. Prends ton bonnet et tes moufles, parce qu'on va pas nulle part, mon petit gars. Ou ma petite garce. Oula, ça fait vulgaire tout de suite. Comme si la langue française était un peu genrée bizarre. Bref, on s'en fout, on va aller aux montagnes hallucinées. Et ouais, mon pote. Ah, c'est bien ça, mon pote. Ça, au moins, c'est épicène. Bref, je réactive le mode sérieux, et on y va. Comme cela nous est soigneusement précisé dans les premières pages de ce manga de Gutanabe, Les Montagnes Hallucinées est l'un des plus longs textes que nous a livré Lovecraft avant sa mort. Décédé en 1937 à l'âge de 46 ans des suites d'un cancer du côlon, l'auteur était plus coutumier des nouvelles, publiées notamment dans des pulp magazines, à l'instar du Web Tales ou encore Astounding Stories. C'est ce dernier d'ailleurs qui accueillera dans ses pages le récit qui nous intéresse aujourd'hui, plus précisément dans les numéros de février, mars et avril 1936, soit 5 ans après que Lovecraft n'ait achevé de le coucher sur le papier. Bon, ça c'était ma petite excursion sur Wikipédia, mais je reviens tout de suite au paratexte du manga, qui indique également combien le récit des montagnes hallucinées a été influencé par les écrits d'Alan Edgar Poe, un autre grand nom de la littérature fantastique. C'est justement l'un des textes fondateurs du genre qui a, semble-t-il, marqué Lovecraft dans l'écriture de cette œuvre, à savoir Les aventures d'Arthur Gordon Pym. Alors, j'avoue, ça ne me dit rien du tout. Mais on m'a rabâché assez de choses sur Baudelaire dès la cinquième pour que je me fasse déjà ma petite idée. Et si jamais ça ne te dit rien à toi, chère auditrice, cher auditeur, ne t'en fais pas. En sus de ces précisions aussi concises qu'appréciables, l'ouvrage que je me propose de chroniquer ce soir nous offre deux citations du fameux Poe, histoire de nous mettre dans l'ambiance.
These were the days when my heart was volcanic, as the scoriac rivers that roll, as the lavas that restlessly roll, their sulphurous current down Yannick, in the ultimate climbs of the pole, that groan as they roll down Mount Yannick, in the realms of the boreal pole.
Les ténèbres s'étaient sensiblement épaissies et n'étaient plus tempérées que par la clarté des eaux, réfléchissant le rideau blanc tendu devant nous. Une foule d'oiseaux gigantesques, d'un blanc livide, s'envolait incessamment de derrière le singulier voile, et leur cri était le sempiternel Tekeli-li qu'ils poussaient en s'enfuyant devant nous.
Edgar Allan Poe, Ulalume. Traduction de Stéphane Mallarmé.
The darkness had materially increased, relieved only by the glare of the water thrown back from the white curtain before us. Many gigantic and pallidly white birds flew continuously now from beyond the veil, and their scream was the eternal Tekeli-li as they retreated from our vision.
C'était au jour où mon cœur était volcanique, comme les rivières scoriaques qui roulent, comme les laves qui roulent instablement leur sulfureux courant en bas de l'Yannick, dans les climats extrêmes du pôle, qui gémissent tandis qu'elles roulent en bas du mont Yannick dans les régions du pôle boréal.
Edgar Allan Poe, Aventure d'Arthur Gordon Pym. Traduction de Charles Baudelaire.
Les montagnes hallucinées nous plongent au cœur d'une expédition en Antarctique auprès d'une équipe scientifique dans laquelle nous suivrons tout particulièrement le professeur et géologue William Dyer de l'université de Miskatonic. Normalement, à ce nom, les connaisseurs et connaisseuses opinent déjà du chef, reconnaissant là la manie de Lovecraft à laisser des références intertextuelles ici et là. En voici donc quelques autres que je vous offre là, comme ça, entre la poire et le fromage. Notre équipée montera à bord du navire Arkham, qui, avant d'être le nom d'un célèbre asile dans un certain comics, fut une ville lovecraftienne notoire. Notons également que le Necronomicon, aka l'antébible par excellence de notre cher Howard, semble avoir été lu par beaucoup trop de monde sur ce rafio. C'est ce qui justifie à mon avis que les aventures qui nous seront narrées ne s'en tiennent pas au programme initial de l'expédition. À savoir, une température oscillant autour des moins 5 degrés, des forêts creusées de la dynamite, l'excavation de fossiles précambriens, quelques vols en avion pour repérer les environs, et surtout, du vent balayant impitoyablement et inlassablement les étendues gelées et désolées. On aura vu des voyages vacances plus palpitants et surtout plus confortables que celui-là, c'est certain, mais c'est absolument rien à côté de ce qui attend notre équipage. Et autant je ménage mon suspense et prends mon temps pour vous dévoiler la tournure des événements, autant l'œuvre de Gutanabe reste fidèle à la narration de Lovecraft et nous met dès les premières pages face à la fatalité cauchemardesque qui pèse sur nos protagonistes. L'histoire s'ouvre donc sur les paroles du professeur Dyer, consignant manifestement ses pensées et observations dans un journal.
Le 25 janvier 1931, notre équipe de sauvetage quittait la base en direction du camp du professeur Lake, qui avait insisté pour partir en prospection au nord-ouest avec 11 de nos hommes. L'avant-veille, après un dernier échange radio au cours duquel Lake nous avait annoncé avec enthousiasme la découverte sensationnelle qu'il avait faite, un vent d'une violence inouïe s'était déchaîné. Depuis, nous n'arrivions plus à reprendre contact. Les ravages causés par la tempête étaient effroyables. Un bombardement furieux de particules de glace avait anéanti toute l'équipe de Lake. Du moins, c'est ce que nous avons d'abord pensé. Certains corps étaient mutilés d'atroces façons. Des hommes et des chiens avaient été incisés et amputés. Leurs organes et l'essentiel de leur chair avaient été prélevés, comme par un boucher à la main experte, sans qu'il n'en subsiste la moindre trace. Autour des cadavres, du sel pris dans les provisions avait été éparpillé. Ce qui s'était passé ici dépassait notre imagination. Mais une découverte plus troublante nous attendait encore. Devant nous s'étendaient les noires montagnes sans nom que Lake avait été le premier à observer aux confins de l'Antarctique inexplorée.
On retrouve bien là le goût de Lovecraft pour les récits rapportés par un personnage témoin des événements, en tout cas d'une partie, et qui se charge de nous les rapporter a posteriori. Mais si Howard gardera ce point de focal sur l'ensemble du récit, Gou, Tanabe, rappelez-vous, nous propose une autre approche, à mon sens bien plus adaptée au format de la bande dessinée. On ne verra donc jamais le professeur Dyer assis à une table, crayon à la main. Mais on le suivra directement sur le terrain. Et s'il reste un point de focal fort dans le manga, un autre protagoniste s'impose très vite, notamment lorsque celui-ci met la main sur un curieux fossile. Je vous laisse écouter cet échange décisif entre notre géologue et ce professeur laïque.
D'où proviennent ces fossiles striés ?
D'un profond trou de forage aux explosifs, à l'ouest. Mais selon moi, ces marques ne sont pas de nature biologique. Il s'agit des effets d'ondulation que l'on retrouve habituellement dans les roches sédimentaires. Mes yeux de géologue ne voient là rien de particulièrement surprenant.
Détrompez-vous. Je suis certain que ces stries sont d'origine organique. Ces empreintes ne résultent pas de la compression des strates. Ce sont celles d'un organisme massif, hautement évolué et absolument inclassable. Elles viennent d'une forme de vie encore inconnue, j'en suis convaincu.
Tout au long de l'échange, Gutanabe nous laisse entreapercevoir le fameux fossile strié qui déclenche cette passion toute particulière chez le professeur Lake. Une fois que l'avis du géologue d'ailleurs lui a été partagé, il se lance lui-même dans l'examination du fossile, leur donnant à tous deux, c'est-à-dire lui et au fossile, toute la place restante dans les cases. Une fois sa réplique finale achevée, il ne nous reste plus qu'à tourner la page pour nous trouver face à une case unique, un gros plan sur la table de bois où a été reposé l'énigmatique fossile, dont les stries chaotiques semblent déjà annoncer le profil menaçant des montagnes. À moins que ce ne soit là une hallucination orchestrée par Gutanabe. C'est le moment tout indiqué pour vous parler du traitement graphique dans cette œuvre. Le trait de Gutanabe rend ici à merveille, la finesse de son trait lui permettant de retranscrire le moindre petit détail des équipements de pointe dont se dote notre expédition scientifique. Les premières pages sont en ce sens confondantes de réalisme. Le mangaka ne me démérite pas non plus quant au trait de ses personnages, qui ont le regard vif et les expressions denses. D'autant que les conversations dans la pénombre des tentes occasionnent des lumières et des ondes particulièrement contrastantes. Comprenez par là, l'ambiance peut devenir très vite, très dramatique. Quant au découpage, il offre un rythme impeccable pour se plonger dans ces ambiances pesantes. Un travail tout particulièrement soigneux est accordé à la retranscription des paysages dans lesquels évoluent nos personnages. Les reliefs et les étendues se présentent à nous en demi ou double page, parfois d'une visibilité extrême, mettant à l'honneur tout le gigantisme de ces montagnes. Mais parfois, l'illustration se fait plus tortueuse, moins claire, comme brouillée. Cela incombe alors à la neige qui réfléchit la lumière solaire jusqu'à nous aveugler, au vent qui balaye tout sur son passage et qui brouille notre vision, à la tempête même qui gronde et qui dévore les pages d'un noir abyssal. Et si cela vous rend mal à l'aise, c'est tant mieux. Car on ne saurait alors se sentir plus proche de nos personnages, laissés à leur sort au cœur des éléments, que je ne saurais qualifier ici de naturel étant donné les circonstances qui font place belle au mystère et à l'insondable. Mais revenons-en à notre histoire. Vous l'avez compris, le campement sur lequel est arrivé le professeur Dyer en début d'ouvrage n'est autre que celui de Lake, parti suivre la piste du fossile strié, indice d'une forme de vie inconnue jusqu'alors. Si le triste résultat nous est déjà connu, reste à savoir comment cela s'est passé. Je choisis là de ne pas vous révéler d'autres détails sur cette histoire, mais je vous préciserai néanmoins que vous pouvez suivre le professeur Lake dans sa propre expédition au cœur des montagnes aussi noires que mystérieuses, ces montagnes hallucinées qui donnent son titre à l'histoire. Il me reste aussi à ajouter que tout au long de la lecture, j'avais comme un drôle de sentiment. Sans pour autant savoir avec exactitude tout ce qui allait se passer, je voyais cependant chaque événement s'enchaîner avec une évidence extrême. Tout semblait, à chaque instant, aller parfaitement de soi, comme si chaque élément narratif, chaque petit détail s'imbriquait à sa place. Je pense avoir là expérimenté ce fait étrange, à savoir que même si on n'a pas lu Lovecraft, comme c'est mon cas, on a forcément été en contact avec son œuvre. Ainsi, ces scientifiques perdus sur la banquise avec leur chien de traîneau furent sûrement perçus par mon cerveau comme une réminiscence du film de Carpenter, The Thing ayant été pas mal inspiré par les montagnes hallucinées. Mais je crois que c'est au-delà de ça. Est-ce que c'est le fatalisme qui plaît tant à Lovecraft? Ou est-ce simplement ce qui se passe lorsqu'on lit la plume de celui qui fait référence en un genre? Je ne sais pas trop ce que vous en pensez, et pour cause, c'est pas avec votre poste radio que vous pouvez mener le fond de votre pensée. Mais en tout cas, la réflexion est partagée et je vous laisse en faire ce que vous voulez. En attendant, je vous propose d'écouter une nouvelle entrée du journal du professeur Dyer, qui ouvre cette fois-ci le 8e chapitre.
Au loin, les sinistres cimes de ces montagnes inexplorées emplissaient l'horizon. Soumises depuis des temps immémoriaux à l'isolement radical et à la désolation de ce monde austral, inviolé et insondable. Je ne pouvais réprimer un certain malaise devant les troublantes ressemblances avec les terres décrites dans les mythes archéens. Ce royaume de mort présentait en effet de dérangeantes correspondances avec le maléfique plateau de Leng, évoqué dans les écrits primordiaux. Quelques mystiques audacieux ont attribué une origine pré-pléistocène aux fragmentaires manuscrits nakotiques et suggéré que les adorateurs de Chateauguay étaient aussi étrangers à l'humanité que Chateauguay lui-même. Quoi qu'il en soit, je n'aurais pas souhaité faire leur connaissance et je n'appréciais guère de me trouver dans la région qui avait engendré les impossibles monstruosités que Lake nous avait décrites. Face à ces lugubres montagnes, je regrettais d'avoir lu l'effroyable Necronomicon conservé à la bibliothèque de l'université et d'avoir tant discuté avec Wilmart, le folkloriste si fâcheusement érudit.
Il est maintenant temps de conclure cette chronique sur le premier tome des montagnes hallucinées par Gutanabe. Alors avant de se quitter, je vous indique que le livre est édité par les éditions Kiun et que c'est un objet de toute beauté. Avec sa couverture en simili-cuir gravé, où l'illustration a été rehaussée d'un noir aussi brillant que net, l'aspect vieux grimoire se marie aussi bien aux traits de Gutanabe qu'à l'histoire de Lovecraft. Par ailleurs, sachez que ce premier tome fait partie de la collection Les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Vous pourrez ainsi donc découvrir les autres classiques sous la plume et le trait encore et toujours de Gutanabe, à commencer par la suite et fin des montagnes hallucinées bien sûr, mais aussi La couleur tombée du ciel, L'appel de Cthulhu et bien d'autres encore. Et pour tout mot de la fin, je vous propose celui-ci. C'est quand même pas mal ironique de voir ce raciste de Lovecraft se faire adapter avec tant de brio et de panache par un auteur japonais. S'il vous fallait une raison supplémentaire de préférer le manga à l'original, elle est là. On ne sépare certes pas l'œuvre des artistes, mais on donne sa thune à celui qui sublime ce qui lui passe sous la main. Et à présent, c'est non sans un plaisir certain que je vous propose d'écouter La montagne de Jean Ferrat.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau, et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver.
La montagne de Jean Ferrat.
Et voilà, J'irai cracher sur vos ondes touche déjà à sa fin. Comme d'ordinaire, je remercie celles et ceux qui ont prêté leur voix pour nos chroniques de ce soir, à savoir Théo, Justine et May. Vous avez pu profiter de ces lectures sur des fonds musicaux tirés des BO de The Fountain, composés par Clint Mansell, et celles de The Thing et Prince of Darkness, deux films réalisés et dont la musique a été composée par Carpenter. Merci aussi à toi qui nous écoutes. On espère que cette émission t'a plu. N'hésite pas à le faire savoir en nous laissant un commentaire sur notre page Facebook ou sur Twitter, par exemple. Ça fait toujours plaisir à lire. On te dit rendez-vous à la semaine prochaine, de 19h à 20h sur Radio Syllabe, pour une émission spéciale fête commerce... fête de Noël, voilà. Fête de Noël. Spéciale, j'irai cracher sous le sapin. Tu verras, ça sera bien. D'ici qu'on se retrouve, je te souhaite une bonne soirée, et si tu en as le loisir et l'envie, de bonnes lectures et autres rencontres avec la littérature. Ah.